Alors que 8 personnes sur 10 dans le monde se revendiquent d'une religion, la pluralité culturelle et religieuse soulève des questionnements liés au fondement de l'identité dans un pays. Chaque pays, avec son histoire, ses valeurs et son régime politique, est irrémédiablement confronté à cette diversité en termes d'ethnie, de langue ou de croyance. D'une démocratie qui interroge son modèle de laïcité à un État autoritaire qui rejette ses minorités, nous vous emmenons à travers ce podcast dans un voyage au cœur des sociétés plurielles. D'un bout à l'autre du monde, nous essaierons de comprendre avec vous les enjeux et les problématiques liées à la pluralité culturelle et religieuse. Retrouvez aujourd'hui le dernier voyage de la première saison du podcast « Voyage au cœur des sociétés plurielles ». Pour notre dernière escale, nous nous arrêtons en Espagne. Pays européen situé aux confins du continent et lié entre l'Atlantique et la Méditerranée, l'Espagne s'est construite au carrefour de multiples influences, et ce depuis l'Antiquité. Aujourd'hui marquée par une forte empreinte catholique, elle lie des entités culturelles pourtant hétérogènes grâce à un héritage séculaire. Dans ce podcast, vous comprendrez pourquoi malgré vos quelques notions d'espagnol, vous ne comprenez décidément rien d'une conversation en basque ou encore pourquoi une cathédrale se trouve en plein milieu de la grande mosquée de Cordoue. État moderne intégré, l'Espagne questionne perpétuellement son équilibre territorial et culturel entre forces centralisatrices et centrifuges. Les événements liés à l'indépendantisme catalan en 2017 en sont encore une preuve récente. Voyagez donc avec nous pour comprendre comment l'Espagne, pays somme toute familier mais pas moins complexe, gère cet équilibre récent entre composantes politiques, culturelles et religieuses variées. Aujourd'hui, nous recevons Daniel Durazo-Lainez, espagnol et candidat au concours des affaires étrangères. Bonjour Daniel.
Bonjour, merci de me recevoir.
Et Mathieu Barlet, coordinateur du pôle action de l'Observatoire Pharos. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Dans cet épisode, nous parlerons dans un premier temps de la construction socio-historique de l'Espagne, avant de nous arrêter plus précisément sur la période allant de la dictature franquiste jusqu'à l'époque contemporaine. Nous ferons pour finir un état des lieux du pluralisme religieux en Espagne. Commençons par la construction socio-historique de l'Espagne, qui tend vers un équilibre entre forces centrifuges et centripètes sous la bannière catholique. Au Moyen-Âge, les trois religions du livre ont cohabité sur la péninsule ibérique. Pouvez-vous revenir sur cette période ?
Historiquement, l'identité de l'Espagne ne se réduit pas exclusivement au catholicisme, bien que celui-ci, conquérant, ait imposé des récits nationaux au service de la construction étatique qui trouvera dans la Reconquista son mythe fondateur. La réalité est bien différente. L'Espagne se distingue des autres pays européens pour avoir été le berceau d'une des plus importantes communautés juives, mais également pour avoir été sous domination arabo-musulmane pendant les 7 siècles de l'Al-Andalus. C'est ce sur quoi nous allons nous arrêter, une longue période qui verra tantôt la cohabitation pacifique, tantôt la confrontation entre trois communautés culturelles et religieuses, la catholique, la juive et l'islamique. Pour ce faire, il convient de revenir aux origines, mythiques ou historiques, de la présence des trois religions du livre dans la péninsule, dans la mesure où l'Espagne et le Portugal, en tant que construction étatique, ne commenceront à exister véritablement que pendant les dernières décennies de la Reconquista.
Tout d'abord, comment s'est déroulée la christianisation de l'Espagne ?
Les racines chrétiennes de la péninsule ibérique, et de l'Espagne en particulier, remontent selon les écrits bibliques à l'arrivée de Jacques de Zébédée, l'un des 12 et frère de l'apôtre Jean, à Gadès, actuelle ville de Cadiz en Andalousie. Ce premier voyage l'emmènera jusqu'à l'actuelle Saragosse, avant de se solder par un échec qui forcera son retour à Jérusalem. Martyr en l'an 40, les seuls deux disciples qu'il réussit à convertir et à ramener avec lui en Terre Sainte remporteront sa dépouille jusqu'en Espagne, et c'est en accostant sur les côtes galiciennes que son corps sera enterré, fondant un village, devenu aujourd'hui la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Néanmoins, l'évangélisation ibérique se produira de manière plus effective bien plus tardivement. En effet, malgré la chute de l'Empire romain d'Occident et l'invasion des tribus wisigothes, les communautés hispano-romaines garderont leur foi chrétienne en vivant sous un régime juridique, social et religieux différencié des communautés germaniques qui se sont installées sur les terres ibériques. Il faudra attendre la conversion au christianisme du roi Recared en 586 pour que la religion de l'immense majorité de la population, d'origine hispano-romaine, coïncide avec celle de la minorité noble, d'origine germanique. Cette présence chrétienne se renforce et se transforme en socle identitaire des royaumes chrétiens qui naîtront pendant la Reconquista entre les XIIIe et XVe siècles. Ainsi, les monarques catholiques de Léon, de Castille, de Navarre et d'Aragon se réclameront des rois wisigoths pour légitimer leur origine non seulement autochtone, en opposition aux monarques arabes descendant des envahisseurs de 711, mais également catholiques, pour justifier cette croisade intérieure contre l'islam dans la péninsule. Voilà quels sont les fondements de l'identité chrétienne espagnole dont se sont servis tous les régimes ou partis politiques pour justifier l'origine essentiellement catholique de l'Espagne, niant l'existence non seulement de l'islam, mais également du judaïsme dans la péninsule. Rien n'est aussi éloigné de la réalité historique.
Le califat de Cordoue est souvent présenté comme un exemple de cohabitation pacifique entre communautés. Mais comment l'islam a-t-il été diffusé dans la péninsule ?
Les deux autres religions du livre ont une présence tout aussi inscrite dans la longue histoire de l'Espagne et ont contribué de façon déterminante au rayonnement culturel espagnol dans tout le bassin méditerranéen au Moyen-Âge. Nier leur importance, voire leur existence ou enracinement en Espagne, n'est qu'une preuve de la chape de plomb instaurée par la monarchie hispanique des rois catholiques à la fin de la Reconquista pour asseoir l'Espagne à la table des grands royaumes catholiques d'Europe occidentale. L'islam fait son entrée en Espagne en 711, lorsqu'une première vague d'envahisseurs arabo-berbères traverse le détroit de Gibraltar et attaque un royaume wisigoth déjà très affaibli par de forts conflits internes. Ce sera cette première déferlante qui réussira à monter jusqu'aux rives de l'Èbre et qui dans un deuxième temps sera arrêtée par les armées de Charles Martel à Poitiers en 732, forçant leur repli au sud des Pyrénées. Il faut bien comprendre que cette présence arabo-musulmane s'installe à la suite d'une conquête militaire. Il ne s'agit pas d'une conquête de peuplement. La population ibérique ne changera pas de composition ethnique, mais se convertira massivement à l'islam sous la pression des nouveaux dirigeants de la péninsule. En effet, bien que les chiffres varient, on estime environ à 10 000 le nombre de personnes en provenance des territoires arabes du Maghreb qui s'installèrent sur les nouvelles terres conquises. Dès lors, l'islam devient la religion officielle, bien qu'elle tolère, à côté d'elle, les autres religions du livre. Al-Andalus ne sera pas une seule structure politique, sociale et culturelle, mais une succession de régimes politiques à la tête desquels se placeront des dynasties qui prendront le pouvoir en éliminant leurs prédécesseurs. C'est ainsi que du califat omeyyade établi en 711, on passe à celui de Cordoue en 929, suite à une scission religieuse entre l'entité ibérique et l'autorité établie à Bagdad, puis à l'empire almoravide qui prendra le contrôle de la péninsule en 1040, à l'empire almohade entre 1145 et 1212. Après cela, il ne restera que le royaume nazari de Grenade qui survivra entre 1938 et 1492, date à laquelle les rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, unifieront politiquement la péninsule après la prise de Grenade. Comme nous venons de le voir, la présence de l'islam en Espagne s'étale tout au long de 7 siècles, mais avec des différences notables. La période de plus grande splendeur culturelle et religieuse du point de vue de l'islam dans la péninsule ibérique est sans conteste liée au califat de Cordoue. Mais de grands penseurs, philosophes, théologiens, ayant une importance doctrinale forte sur l'ensemble du bassin méditerranéen, seront d'origine andalouse. Nous pouvons citer le philosophe Averroès, né à Cordoue en 1126 sous l'Empire almoravide et mort à Marrakech en 1198 sous l'Empire almohade, et qui sera l'un des plus grands penseurs de ce début du Moyen-Âge et dont les commentaires sur l'œuvre de Platon et d'Aristote sont encore étudiés aujourd'hui. D'un point de vue interne, l'islam apportera un renouveau culturel à l'Espagne. L'ouverture de centres universitaires, déjà à Cordoue ou Saragosse, le développement du commerce avec les territoires du nord de l'Afrique. L'Al-Andalus sera l'une des plus puissantes entités politiques non seulement du bassin méditerranéen, mais également d'Europe occidentale. Et l'islam sera l'un des marqueurs de cette identité culturelle et religieuse.
À présent, que pouvez-vous nous dire de la communauté juive durant cette période du Moyen-Âge ?
Le judaïsme étant la religion mère tant du christianisme que de l'islam, sa présence sur la péninsule ibérique est antérieure à celle des deux autres. Des débats existent sur la période pendant laquelle les premières communautés juives s'installèrent en Espagne. Certains écrits bibliques permettraient de placer les premières arrivées avant même la destruction du premier temple en 586 avant notre ère. Cependant, grâce à de nombreuses fouilles archéologiques, des traces d'une présence hébraïque ont été trouvées sous l'époque romaine, après la prise de la péninsule aux Carthaginois par l'Empire romain suite à la Deuxième Guerre punique. Mais ce sera bien plus tard, sous la domination chrétienne et musulmane au Moyen-Âge, que se construira l'identité séfarade des communautés juives établies en Espagne. Jean-Christophe Attias écrit dans son Dictionnaire de la civilisation juive que la particularité du judaïsme ibérique au Moyen-Âge est d'avoir connu aussi bien le régime musulman que le régime chrétien et d'avoir développé une culture imprégnée par ces deux univers. Victime de pogroms déjà sous la domination wisigothe, de conversions forcées et d'expulsions sous l'Empire almohade ou le règne d'Isabelle de Castille, les juifs séfarades quitteront les terres ibériques pour d'autres terres chrétiennes, Angleterre, Pays-Bas, Avignon, Italie, et musulmanes plus tolérantes envers leur communauté juive, essentiellement au Maghreb, au Proche-Orient ou dans la région de Constantinople.
Une fois l'origine des trois religions du livre en Espagne établie, il convient de s'arrêter sur les relations parfois bonnes, souvent mauvaises, qu'elles ont entretenues tout au long de l'ère médiévale.
En effet, si aujourd'hui le mythe de l'Espagne des trois cultures est souvent utilisé comme le modèle du vivre ensemble entre chrétiens, juifs et musulmans, la réalité fut assez différente. Il est vrai que des périodes de coexistence pacifique ont existé, comme ce fut le cas sous le califat de Cordoue, pour ce qui est de la partie islamique, ou sous les rois de León puis de Castilla, de la fin du XIe siècle, pour ce qui relève de l'espace chrétien. Ces périodes de cohabitation et de dialogue interreligieux sont tout de même très réduites, tant dans leur temporalité que dans leur espace géographique. En premier lieu, il convient de rappeler que tout au long du Moyen-Âge espagnol, des chrétiens vécurent sur des territoires contrôlés par des musulmans et vice-versa. L'une des caractéristiques de l'Espagne médiévale, du point de vue religieux, est cette cohabitation de différentes religions au sein d'une même construction politique, sociale et culturelle. Cependant, cette cohabitation ne voulait pas dire mixité, et en général, les mariages mixtes entre personnes de confessions différentes étaient interdits par la loi, qu'elles soient chrétiennes ou islamiques. Ainsi, les mozárabes étaient les chrétiens qui vivaient sur des territoires contrôlés par des musulmans, du moment qu'ils payaient une taxe spéciale équivalente à celle payée par les juifs pour conserver leur religion, sous peine d'être expulsés faute de s'être convertis. Un exemple est celui de l'émir Abderrahman II, qui convoque le concile de Cordoue en 851 et qui autorise les chrétiens à conserver leur foi à condition de ne pas s'engager dans les affaires politiques et permet les mariages mixtes entre musulmans et chrétiens sous certaines conditions. A l'inverse, les mudéjares étaient les musulmans qui vivaient dans des royaumes chrétiens. Ils furent particulièrement nombreux lors des dernières phases de la Reconquista, après les grandes avancées des rois chrétiens au XVe siècle sur les territoires islamisés. En ce qui concerne les conditions de vie des communautés juives dans la période médiévale espagnole, deux précisions sont à faire. La première est que, contrairement à l'islam et au christianisme, le judaïsme a toujours souffert d'être une religion considérée comme minoritaire, n'ayant jamais bénéficié de gouvernants juifs. Ainsi, les communautés juives étaient tantôt soumises à un roi chrétien, tantôt à un calife en fonction de l'avancée et des luttes de la Reconquista. Déjà, sous la monarchie wisigothe, les communautés juives furent victimes de pogroms et d'expulsions forcées à partir du moment où le catholicisme devenait la religion du monarque et tout particulièrement sous Recaret Ier. La seconde est que, bien que confinée à un statut d'infériorité par rapport aux deux autres religions, la communauté juive séfarade a toujours été l'un des piliers les plus importants de tous les régimes politiques sous lesquels elle a vécu. Ainsi, l'usure étant interdite par le pape aux rois chrétiens, ceux-ci devaient recourir aux membres les plus éminents des communautés juives afin de pouvoir obtenir des prêts financiers destinés à leur entreprise de conquête. Par ailleurs, tant du côté chrétien que du côté musulman, de très lourdes taxes étaient imposées aux communautés juives pour le simple fait de l'être. Beaucoup se convertirent soit à l'islam, soit au catholicisme, dans le seul but d'éviter ces très lourdes charges, qui permirent aux monarques des deux côtés de mener à bien leur guerre de territoire. Mais cette importance va au-delà d'un simple aspect financier. Nombreux furent les rois chrétiens ou les califes musulmans qui s'appuyèrent sur des sujets de confession juive afin de mener leurs armées, gérer leur administration, prélever leurs impôts, les soigner. Ces deux raisons expliquent une très grande ambivalence des comportements des différents dirigeants de la péninsule vis-à-vis de leurs sujets de confession juive. Les communautés juives, présentes massivement en Espagne dès l'Empire romain, ont dû faire face à des conversions forcées, à des expulsions déjà sous l'Empire almohade en 1146, celle d'Isabelle de Castille en 1492 étant la plus connue. La fin de la Reconquista en 1492, l'expulsion des juifs ou leur conversion, devenant ainsi des marranos, terme animalier particulièrement péjoratif en espagnol, par l'édit de Grenade de la même année, la conversion forcée de tous les mudéjares en 1502, avant l'expulsion des moriscos, personnes de confession musulmane converties au christianisme, en 1609 par Philippe II, l'existence de l'inquisition hispanique entre 1478 et 1834, furent des éléments qui participèrent à la négation du passé multiconfessionnel de l'Espagne médiévale, au profit d'un discours politique catholique qui encore aujourd'hui identifie l'Espagne, à tort, comme un pays, une entité culturelle, une construction politique qui n'a que peu de liens avec les deux autres religions du livre.
À la fin du XVe siècle, les rois catholiques Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille règnent sur la majeure partie de l'Espagne actuelle, en grande partie unifiée. En effet, depuis plusieurs siècles, des armées au service de la chrétienté affrontent les armées musulmanes de la péninsule. C'est la Reconquista.
Les armées musulmanes n'ont pas conquis toute la péninsule ibérique. La cordillère cantabrique, territoire peu accessible car escarpé et resté aux mains des tribus visigothes, s'est constituée comme zone de refuge pour les populations mossarabes, c'est-à-dire chrétiennes en terre musulmane. Cette région est considérée aujourd'hui comme le berceau de la Reconquista. La Reconquista, reconquête en français, désigne le long processus ayant abouti à l'union des couronnes chrétiennes sur la péninsule ibérique et l'effondrement de la domination des royaumes islamiques. Chapitre majeur du récit national espagnol, contemporain des croisades, il est parfois présenté comme une suite d'épopées militaires motivées par une destinée divine au service de la chrétienté entre 722 et 1492. Il se caractérise en réalité par deux dynamiques opposées. Le rapprochement, le renforcement et la structuration des royaumes chrétiens d'une part, et le délitement des autorités islamiques d'autre part. L'histoire a retenu que la bataille de Covadonga en 722 marque le début de la Reconquista. Selon la légende, sous la houlette de leur chef Pelayo, les combattants rattachés au duché de Cantabrie infligent une défaite aux armées omeyyades au cœur des pics d'Europe. Aujourd'hui, le sanctuaire marial de la Covadonga est un lieu de pèlerinage fort où repose Pelayo auprès de la statue de la Vierge. Peu après la bataille, le royaume des Asturies voit le jour et s'étend au sud jusqu'en Galice, devenant royaume de Léon en 854. Au même moment, plus à l'est, le long de la chaîne pyrénéenne, Charlemagne soutient les comtés et duchés du sud des Pyrénées réunis dans la Marca Hispanica comme cordon de sécurité face aux armées maures. Au XIe siècle, deux royaumes chrétiens se renforcent et se centralisent. L'union du comté de Castille et du royaume de Léon aboutit à la création de la couronne de Castille et Léon à l'ouest, et la sécession de la partie orientale du royaume de Navarre marque l'émergence de la couronne d'Aragon sous l'impulsion du comte de Barcelone. Au même moment, le califat de Cordoue s'effrite en 1031 au gré de divisions internes au profit du système des taïfas, émirats de petite taille. Dans ce contexte de division, les royaumes chrétiens avancent en exploitant les griefs et rivalités entre taïfas. Le royaume de Castille et Léon conquiert la vallée du Tage, alors que le royaume d'Aragon sécurise l'espace catalan dans la vallée de l'Ebre. En 1212, la victoire des royaumes chrétiens sur les Almohades lors de la bataille de las Navas de Tolosa réduit le territoire d'Al-Andalus à l'émirat de Grenade, vassalisé par le pacte de Jaén en 1246. C'est durant cette période de sursis que les palais nasrides, les jardins du généralife, sont construits autour de l'Alcazaba de Grenade, dans ce qui forme aujourd'hui l'Alhambra. En 1469, la princesse Isabelle, héritière de la couronne de Castille, et le prince Ferdinand, héritier de la couronne d'Aragon, se marient. Au décès d'Henri IV de Castille, en 1474, cette alliance donne naissance à la monarchie hispanique chargée de finaliser la Reconquista et l'imposition de la chrétienté. Quelques années plus tard, le royaume de Navarre est conquis par les troupes de la couronne d'Aragon et annexé par la couronne de Castille. En janvier 1492, Grenade est conquise, mettant fin à 7 siècles de présence musulmane dans la péninsule ibérique. La monarchie hispanique finit d'instaurer le système estamental, organisation féodale basée sur la vassalisation des noblesses locales réunies en Cortes et gouvernant grâce aux fueros. D'importance centrale pour comprendre l'histoire espagnole, les fueros sont un ensemble de normes juridiques propres à un territoire. Ils caractérisent l'autonomie juridique et parfois la souveraineté des élites sur la province donnée. La monarchie s'appuie sur le Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición pour assurer l'observance des préceptes chrétiens, lutter contre l'hérésie, convertir de force les non-chrétiens et au premier chef les musulmans, devenant ainsi des moriscos, expulser les juifs, dont une bonne partie s'exile au sud des Balkans. C'est pour cette raison que l'on trouve aujourd'hui des communautés juives séfarades hispanophones en Grèce et en Turquie. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. La mission d'évangélisation ne se limite pas à la péninsule ibérique. Elle se poursuit en Afrique du Nord et motive l'expansion de la couronne vers de nouvelles terres, grâce au financement de l'expédition de Christophe Colomb de 1492 et l'installation ultérieure des colonies dans les Amériques. Les monarques profitent des faveurs du pape Alexandre VI, originaire de la couronne d'Aragon, qui favorise Isabelle et Ferdinand en leur accordant la souveraineté sur tous les territoires situés à 100 km au sud et à l'ouest des territoires portugais des Açores et du Cap-Vert par la bulle Intercaetera en 1493 et en les nommant rois catholiques par la bulle Si Conwenit de 1496. Ce titre est toujours détenu par le roi d'Espagne qui se doit d'être catholique selon la tradition. Petit-fils des rois catholiques, Charles Quint poursuit la mission de ses grands-parents. Il fait en effet construire une cathédrale, la Capilla Mayor, à l'intérieur même de la grande mosquée de Cordoue, ou encore favorise la création de la Compagnie de Jésus, les Jésuites, sous l'impulsion notamment d'Ignace de Loyola. Confronté aux idées de la réforme dans les territoires germaniques, il est obligé de concéder la paix d'Augsbourg en 1555. Après cela, il soutient activement l'Inquisition, tout comme son successeur Philippe II, qui s'appuie sur les décisions du Concile de Trente pour rendre l'Espagne hermétique au protestantisme à cette époque.
Malgré l'unification des couronnes, l'Espagne a toujours été tiraillée par des forces centrifuges. Comment les revendications autonomistes des autres couronnes ont-elles évolué à partir du XVIIe siècle ?
L'Espagne s'est construite sur une confédération de royaumes et de couronnes, chacun maintenant ses propres cortes, l'assemblée législative, et fueros, ses propres normes, son armée et son droit. Dans les faits, deux forces tiraillent l'Espagne. Une force centripète, menée par la couronne de Castille, véritable centre politique et économique, et une force centrifuge, menée par la couronne d'Aragon. Cette dialectique conditionne l'histoire espagnole moderne jusqu'à aujourd'hui. En effet, dès le début du XVIIe siècle, la Catalogne, qui fait partie de la couronne d'Aragon, refuse de faire la Unión de Armas avec la couronne de Castille en 1625, avant de se soulever en 1646. Plus tard, la principauté de Catalogne et le royaume de Valence, qui composent en partie la couronne d'Aragon, soutiennent la maison des Habsbourg face à la maison de Bourbon lors de la guerre de succession après la mort de Charles II de Habsbourg. En conséquence, Philippe V de Bourbon, petit-fils de Louis XIV, promulgue Los Decretos de Nueva Planta dès 1707, qui élimine l'autonomie de chacune de ses couronnes. Les royaumes ayant soutenu son opposant lors de la guerre de succession, Catalogne, Valence, Baléares, perdront leur autonomie fiscale alors que les provinces vascongadas, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, la conservent. D'autre part, concentrant tous les pouvoirs politiques et économiques, les couronnes ne deviennent plus que des concejos qui assistent le monarque dans ses choix politiques. Ainsi, la monarchie hispanique, système synalagmatique, devient le royaume d'Espagne, système unifié. Cette dialectique se poursuit et devient plus complexe au XIXe siècle, alors que les idées des Lumières se répandent en Espagne dans les cercles intellectuels et sous l'occupation de l'Espagne par les armées napoléoniennes en 1808. La constitution espagnole de 1812, proclamée à Cadix, instaure une monarchie constitutionnelle empreinte de l'esprit des Lumières. La monarchie absolue est pourtant restaurée peu après, avant de se transformer à nouveau en monarchie constitutionnelle sous Isabelle II, après l'adoption du statut royal de 1834. Ce régime fragile est tiraillé entre forces opposées, conservatisme-libéralisme, monarchisme-républicanisme, unitarisme-fédéralisme, et tombe lors de la Révolution glorieuse de 1868, en ouvrant la période del Sexenio Democrático qui durera jusqu'en 1874. En 6 ans, l'Espagne connaît dictature, changement dynastique, une première expérience républicaine, avec une pression conflictuelle centrifuge par l'essor du cantonalisme, mouvement issu des bourgs locaux demandant plus d'indépendance politique, ou encore des guerres civiles, les guerres carlistes, menées principalement au Pays Basque, en Navarre et en Aragon. Cette période s'achève sous la Restauration avec le retour sur le trône d'Alphonse XII et la Constitution de 1876, qui établit de nouveau une monarchie constitutionnelle. Ce régime, dont hérite par la suite son fils, Alphonse XIII, se caractérise par plusieurs avancées réformistes menées notamment par José Canalejas, en charge de plusieurs portefeuilles ministériels pendant la période. Réforme du droit du travail, promulgation d'une loi électorale, autorisation et développement des syndicats. Pour autant, le régime est convulsé. L'État, dirigé par les partis libéraux et conservateurs qui pactent leur alternance, est mal administré. La Ley del Candado, loi du cadenas de 1910, visant à limiter l'implantation de nouvelles congrégations religieuses, suscite un tollé dans les milieux catholiques. Les revendications autonomistes et syndicales sont réprimées dans le sang et la perte des dernières possessions coloniales en 1898, el desastre de 98, et le désastre d'Anual en 1921 ruinent et dépossèdent l'Espagne de son rang de grande puissance. Cette situation chaotique aboutit au coup d'État du général Primo de Rivera, militaire conservateur catholique qui suspend la constitution, réprime les manifestations autonomistes et installe une dictature conservatrice. Inefficace et contesté, il rend sa démission à Alphonse XIII, qui ne peut contrer la montée du républicanisme. Suite au triomphe des forces anti-monarchiques aux élections municipales de 1931, la République est proclamée en avril et Alphonse XIII part en exil sans abdiquer. Ainsi, la Seconde République est sanctionnée par la Constitution du 9 décembre 1931, d'inspiration socialiste et instaurant l'État intégral tourné vers les autonomies. Ainsi, les statuts d'autonomie du Pays Basque et de la Catalogne sont approuvés. Une politique d'inspiration laïque est par ailleurs menée sous l'impulsion du président Azaña. En 1936, le Front Populaire, force de gauche qui unit socialistes, marxistes et syndicalistes, remporte les élections législatives, à l'instar du modèle français. Andaluces de Jaén, aceitoneros antiguos, decidme el alma quien levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén.
En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto?
C'en est trop pour les franges les plus conservatrices de la société qui décident de se soulever sous l'impulsion du général Mola en juillet 1936. Au départ de la guerre civile, l'ancrage géographique des deux groupes belligérants est révélateur. D'une part, les forces conservatrices sont ancrées en Castille, au Pays Basque et en Navarre, alors que d'autre part, les forces républicaines sont elles concentrées à Madrid, en Catalogne, sur la côte méditerranéenne et en Andalousie, bastion du fédéralisme territorial et du syndicalisme paysan. Au terme de 4 ans de guerre civile, le général Franco s'impose comme le nouveau chef de l'État.
Dans cette première partie, nous avons vu comment les grandes structures de l'identité espagnole se sont construites et configurées les unes par rapport aux autres. Retrouvez très bientôt une deuxième partie de cet épisode dans laquelle nous nous pencherons sur la construction du système autonomique, synthèse moderne de gestion de la diversité espagnole. À très vite.
Vous venez d'écouter le podcast Voyage au cœur des sociétés plurielles, produit par l'Observatoire Pharos. N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques, critiques ou commentaires par email à l'adresse contact@observatoirepharos.com. Vous pouvez également soutenir la poursuite de ce projet de podcast grâce à notre campagne de financement participatif disponible dans la description. Pour rester informé de la sortie des prochains épisodes et pour accéder à nos différents contenus relatifs au pluralisme culturel et religieux, rendez-vous sur notre site web www.observatoirepharos.com. Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram, et abonnez-vous à nos différentes lettres d'information. À très vite pour un nouveau voyage.